puissiez tourner dans vos Bibles en Éphésiens chapitre 6, versets 10 à 20. Systématiquement, nous relisons le même passage, même si nous regardons assez minutieusement verset par verset. Mais comme rappel, c'est toujours bon de souligner les Écritures et nous sommes en train de faire une parenthèse qui est un sujet, qui est une réalité dans nos vies, c'est les accès possibles à l'ennemi. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Il s'agit ici de la puissance du combattant. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de tenir ferme contre les ruses du diable, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Notre vrai ennemi, c'est le diable. Le diable, nous avons déjà vu ensemble ses titres et combien le diable est puissant quelque part pour combattre les enfants de Dieu, combattre Dieu en fait. Lorsque Satan combat les enfants de Dieu, c'est Dieu lui-même qu'il combat. Et la Bible dit ici que le diable a toute une armée et qu'il est rusé. Et dans ses ruses, il veut faire chuter le croyant. Et c'est ce que nous essayons d'éviter dans nos vies chrétiennes, mais ce que nous sommes en train de regarder ensemble dans cette série, les accès possibles au diable. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Le croyant est appelé à combattre, même si quelque part on préférerait ne pas combattre et que l'ennemi n'existe pas. Mais Dieu a permis cela dans sa souveraineté et ses plans, qu'une fois régénéré, on est obligé de combattre et le bon combat de la foi et combattre l'adversaire. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin, prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Ça, ce sont après la puissance du combattant qui est le renouvellement par le Saint-Esprit et la communion avec Jésus-Christ, l'ennemi du combattant qui est le diable, nous avons les armes qui sont décrites ici et finalement la ressource du combattant. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières, de supplications, veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez pour moi afin qu'il me soit donné quand j'ouvre la bouche de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. Donc le sujet que nous sommes en train de développer ici, c'est le combat du croyant au travers du verset 10 au verset 20 du chapitre 6 d'Éphésiens. Et nous faisons une parenthèse concernant les accès possibles donnés à l'ennemi, parce que l'ennemi a toutes sortes de ruses pour nous faire trébucher et nous voulons connaître la façon avec laquelle nous sommes vainqueurs en Christ face à ces ruses subtiles de l'adversaire. Alors il y a différents chemins d'accès donnés à l'adversaire qui sont possibles dans nos vies. Ce que nous allons regarder et rappeler d'abord, c'est en introduction, et puis les différents chemins, puis il y aura évidemment un défi personnel. L'introduction ici, c'est le fait qu'on est dans un combat, et malgré nous-mêmes, et on a regardé toute la liste ici, je l'ai mentionné, les différents titres, en quelque sorte des versets ou des passages à partir du verset 10 jusqu'au verset 20. Et puis, la Bible nous enseigne en fait à veiller face à l'adversaire, à lui résister, à le combattre par la foi, par la parole, par le sang de l'agneau. On est appelé à combattre l'adversaire aussi pour ne pas lui donner accès, ne pas lui laisser avantage, tenir ferme. Et tout cela a été déjà regardé ensemble. Le Seigneur nous appelle à combattre le bon combat de la foi et à résister à l'adversaire. La question que le Seigneur nous pose ici, à laquelle il veut que l'on réfléchisse, un chrétien peut-il donner accès au diable? Et j'aimerais vous inviter à regarder avec moi Éphésiens chapitre 4, verset 26, où il est écrit, chapitre 4, verset 26, « Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. » Ici, la Bible nous dit que lorsque quelqu'un se met en colère, c'est une colère qui peut déborder dans le sens qu'elle n'est pas contrôlée et qu'elle peut faire tomber le croyant dans le péché. Et finalement, que s'il se couche avec cette colère qui n'est pas réglée, il donne un accès au diable. Donc le principe ici, que oui, on peut donner accès au diable par la colère. En fait, le principe ici, c'est qu'un mauvais sentiment qui n'est pas réglé devant Dieu peut donner accès au diable. Et il y a toutes sortes de sentiments chez le croyant qui peuvent donner accès au diable. Et on a déjà regardé cela ensemble. Alors, vous avez la liste ici sous les yeux de ce que j'ai trouvé, et je ne dis pas que la liste est exhaustive, de ce qui est une porte entrouverte ou une porte ouverte à l'ennemi dans la vie du croyant. Il y a la colère, donc différentes sortes de sentiments, ça peut être aussi l'amertume, ça peut être l'irritation, etc. L'indécision, on a déjà vu l'idolâtrie. Ce matin, on va regarder, Dieu voulant, la désobéissance, le manque de maîtrise, la pensée, et on va voir si on va jusque-là, mais sinon on continuera les dimanches suivants avec l'occultisme, la convoitise de la chair, le mensonge, l'erreur, la blessure psychique, le manque de pardon. Je vais vous dire pourquoi j'ai eu à cœur, c'est une anecdote, mais j'ai eu à cœur un jour de faire cette série, parce que je me suis aperçu que dans la vie, il y a des gens notamment blessés par toutes sortes d'épreuves et qui ne guérissent pas. C'est comme si vous avez une plaie sur votre corps et qui n'arrive pas à être purifiée, qui constamment s'infecte parce qu'elle se rouvre, elle n'a jamais été complètement purifiée. Et l'ennemi est très subtil pour jouer comme cela dans la vie des croyants. Donc nous devons veiller à ne pas lui donner accès à se consacrer à Dieu pour s'assurer que nous sommes réellement guéris dans le Seigneur Jésus. L'Éternel est notre guérisseur. Jésus-Christ veut nous guérir dans nos corps et dans nos âmes et dans nos esprits. Et c'est pour cela que, placé dans ce combat, notre seul recours, c'est d'aller vers Jésus-Christ et de nous humilier et de lui obéir, de nous soumettre à sa parole afin d'être secourus au temps favorable, parce que l'ennemi est comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Donc en fait, je me propose de vous développer toujours ce thème des accès possibles de l'ennemi avec un texte de base, un exemple biblique type, la conséquence justement de cet accès et la recommandation ou avertissement. Mais il y a une merveilleuse promesse qu'il ne faut jamais oublier, qui est en fait inclue dans la prière du Notre Père, la prière type que Jésus nous a laissée. « Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. » Ici, dans l'original, il y a l'idée que si le chrétien se livre à la tentation, Dieu peut le livrer à la tentation. Donc, nous devons faire attention de ne pas flirter avec la tentation, de ne pas laisser la tentation nous envahir, parce qu'elle peut devenir, à un moment donné, une obsession ou un lien. Et finalement, Dieu peut nous laisser dans ce lien jusqu'à ce qu'on le plaide devant lui d'être libéré, confesser son péché et aussi d'être délivré du malin. Donc nous devons veiller à ne pas tomber dans la tentation. Et vous savez, qui veut nous pousser dans la tentation? Qui c'est qui est derrière notre dos pour essayer de nous pousser dans la tentation? C'est le diable. Donc la Bible parle des ruses du diable. C'est comme mettre des bâtons dans les roues de quelqu'un pour qu'il tombe s'il était en vélo. C'est nous faire trébucher. L'idée du diable, c'est nous faire trébucher pour qu'on tombe et pour qu'on ne soit plus capable de servir le Seigneur. Le louer, l'adorer, prier, lire la parole, le servir, témoigner de son salut. L'ennemi est très subtil pour paralyser les enfants de Dieu, les anesthésier afin que tombés, ils se sentent tellement faibles qu'ils ne se relèvent pas. Mais Dieu est tout puissant, bien aimé. Mais qui n'est pas tombé, frères et sœurs? Qui n'a pas connu un moment difficile dans sa vie? Qui ne comprend pas ce que je dis dans un sens, qui ne l'a pas déjà expérimenté, parce que nous sommes faibles, mais lui est fort. Notre recours, c'est le Seigneur. C'est merveilleux de connaître le Seigneur. Avant, nous étions esclaves du péché, on ne le savait même pas qu'on était esclaves de l'ennemi. Mais le jour où Dieu nous a sauvés, il nous a ressuscités avec Christ, il nous a assis dans les lieux célestes, et maintenant nous connaissons le Seigneur qui nous fortifie, et par sa grâce toute puissante. Nous sommes appelés à être un peuple de vainqueurs. Même si parfois on est vaincu, Dieu permet que nous soyons des vaincus qui deviennent vainqueurs. Et c'est parfois lorsqu'on est vaincu qu'on devient vainqueur. Comme Paul a dit, c'est quand je suis faible qu'alors je suis fort, afin qu'il croisse et que je diminue. On a vu, je le fais rapidement, le sujet de la colère, avec la recommandation de ne pas donner accès au diable par la colère et toutes sortes de mauvais sentiments. On a vu ensuite le sujet de l'indécision, et notamment en Jacques, que votre oui soit oui, que votre non soit non, avec la recommandation de chercher la volonté de Dieu. Et une façon de chercher la volonté de Dieu, c'est de se consacrer au Seigneur et de connaître la volonté de Dieu, de la pratiquer au travers de la lecture et la mise en pratique de la parole de Dieu. On a vu qu'un autre accès possible, c'est l'amour de l'argent, avec quelques exemples types comme Judas, Ananias, Saphira, Achan, Josué, les Israélites et Nébuchadnezzar. Et les conséquences, ce sont les jugements. Et la Bible dit qu'on doit s'éloigner de l'amour de l'argent, qui est une idolâtrie. Ce matin, on va regarder, Dieu voulant, ce qui est l'accès possible avec ce qui est la désobéissance. Je vous invite, bien-aimés, à tourner avec moi en 1 Samuel, chapitre 15, et versets 1 à 11. J'ai bien apprécié le choix des cantiques ce matin et l'appel que Dieu nous lance constamment à être un peuple de vainqueurs, mais aussi à être un peuple obéissant. Alors, pour être dans le contexte, on va lire, c'est un petit peu long le texte de base cette fois-ci, mais nous allons lire à partir du verset 1, si vous voulez bien, jusqu'au verset 11. Samuel dit à Saül, « C'est moi que l'Éternel a envoyé pour toindre roi sur son peuple, sur Israël. Écoute donc ce que dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées. Je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël lorsqu'il lui ferma le chemin à sa sortie d'Égypte. Va maintenant, frappe Amalek. » Et dévoué par interdit tout ce qui lui appartient, tu ne l'épargneras point, et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, et chameaux et ânes. Donc c'était un jugement, en fait, de la part de Dieu sur Amalek, que Dieu demande d'exercer au travers de Saül, le roi, son serviteur. Saül convoqua le peuple et en fit la revue à Télaïm. Il y avait donc 100 000 hommes de pied et 10 000 hommes de Juda. Saül marcha jusqu'à la ville d'Amalek et mit une embuscade dans la vallée. Il dit aux Kéniens, « Allez, retirez-vous, sortez du milieu d'Amalek, afin que je ne vous fasse pas périr avec lui, car vous avez eu de la bonté pour tous les enfants d'Israël lorsqu'ils montèrent d'Égypte. » Et les Kéniens se retirèrent du milieu d'Amalek. Saül sortit Amalek depuis Avila jusqu'à Shur, qui est en face de l'Égypte. Il prit vivant Agag, roi d'Amalek. Il dévoua par interdit tout le peuple en le passant au fil de l'épée. Mais Saül et le peuple épargnèrent Agag et les meilleures brebis, les meilleurs bœufs, les meilleures bêtes de la seconde portée, les agneaux gras et tout ce qu'il y avait de bon. Ils ne voulurent pas le dévouer par interdit, ils dévouèrent seulement tout ce qui était méprisable et chétif. L'Éternel adressa la parole à Samuel et lui dit, « Je me repens d'avoir établi Saül pour roi, car il se détourne de moi, il n'observe point mes paroles. » Samuel fut irrité, il cria à l'Éternel toute la nuit. C'était une épreuve dans la vie de Samuel de voir comment Dieu l'avait dirigé à oindre Saül comme roi, le roi que Israël voulait avoir. Mais ce roi a désobéi à la parole de Dieu. L'ordre de Dieu était très clair, il devait épargner personne, ni même le roi. Or il se trouve que peut-être par crainte du peuple, en tout cas, lui-même étant coupable d'avoir participé à cela, ils ont épargné le roi, ils ont épargné des sacrifices dans le prétexte de faire des sacrifices à Dieu. Autrement dit, ils ont voulu, et Saül est responsable, de n'avoir pas écouté la parole de Dieu. Est-ce que la parole de Dieu n'était pas claire? La parole de Dieu était très claire, les commandements, les ordres de Dieu étaient très clairs. Pourquoi Saül ne les a pas suivis? C'est parce qu'il a désobéi à la parole de Dieu. Il y a beaucoup de prétextes chez les enfants de Dieu parfois. « Ah, je ne savais pas. » Pourtant, la parole de Dieu est claire. Et au verset 19, si vous regardez avec moi maintenant, à partir au verset 14, si vous voulez, Samuel dit « Qu'est-ce donc que ce bêlement des brebis qui parvient à mes oreilles et ce mugissement de bœufs que j'entends ?» Et puis verset 19, « Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel ? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel ?» Saül répondit à Samuel, « J'ai bien écouté la voix de l'Éternel. » Voyez, il se fait une illusion. J'ai écouté la voix de l'Éternel. Non, il l'a écouté, mais il ne l'a pas mise en pratique. Et j'ai suivi le chemin par lequel m'a envoyé l'Éternel. J'ai amené Agag, roi d'Amalek, et j'ai dévoué par interdit les Amalécites. Mais le peuple a pris. Voilà l'excuse que nous avons en tant qu'enfants de Dieu. Les mais de nos vies. Quand nous avons un mais devant Dieu, réfléchissons un petit peu si nous sommes vraiment honnêtes devant lui. Seigneur, tu as dit, mais ma femme, mais mes enfants, mais mon travail, mais mon patron, mais les circonstances, mais. C'est très subtil comment nous pouvons discuter avec Dieu. Nous sommes parfois, alors que nous sommes des enfants de Dieu, reconnaissons que parfois nous sommes des enfants un petit peu rebelles encore, non ? Un petit peu désobéissants. C'est dans notre nature. Mais, Seigneur, tu as dit mais. Mais voyez-vous, dans le cas de Saül, dans sa position, ce mais va lui valoir son trône et un jugement de Dieu. Mais le peuple a pris sur le butin des brebis et des bœufs comme prémisse de ce qui devait être dévoué afin de les sacrifier à l'Éternel, ton Dieu à Gilgal. Seigneur, ta volonté est clairement exprimée, mais moi je pense que j'ai mieux que toi. Donc je pense que ce mais, je vais l'inclure dans ma vie parce que je pense que quelque part, je suis plus intelligent que toi. C'est grave cela, n'est-ce pas ? Donc je vais agir comme je pense qu'il est bon que j'agisse, par intérêt pour toi. Donc on garde les brebis, puis gloire à Dieu, on va les sacrifier à l'Éternel. Et Dieu dit, vos brebis-là, vous ne les sacrifierez pas, parce qu'en fait, elles sont le fruit de la désobéissance. Vous m'avez amené quelque chose qui ne me plaît pas, et je le rejette, et je rejette votre roi. Samuel dit, l'Éternel trouvera-t-il, et c'est les versets clés, on entre dans le verset clé maintenant, du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel. Ce que Dieu dit, voilà, je préfère l'obéissance au sacrifice que vous pourriez m'offrir. Et voilà un verset qui est bouleversant pour nos vies chrétiennes. Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Autrement dit, la leçon spirituelle ici que Dieu veut nous donner, c'est que Dieu prend plaisir à ce qu'on se soumette à lui. Dieu prend plaisir à avoir en face de lui des cœurs brisés, humbles, qui se soumettent à la volonté de Dieu. Et ici, les holocaustes représentent les œuvres que nous essayons de faire encore et d'accomplir devant Dieu pour lui plaire, mais c'est selon notre chair. C'est l'œuvre de Caïn qui a déplu à Dieu. C'est l'œuvre impure dans nos cœurs qui n'est pas purifiée par le sang de Jésus et qui prétend être une œuvre pour Dieu alors que c'est une œuvre de la chair parce que la motivation n'est pas pure et n'est pas liée dans la pensée de Dieu, dans l'amour de Dieu, dans la sainteté de Dieu, dans l'obéissance à l'Éternel. Reconnaissons que la désobéissance est quelque chose qui est tellement lié à la nature humaine. Nous qui sommes parents, vous n'allez pas, je crois, contester cela avec moi, vous allez être d'accord entièrement. Nous sommes d'accord qu'il n'y a aucun enfant qui est né dans notre foyer et qui s'est soumis d'entrée sans jamais avoir une correction. Oui, papa, oui, maman, je ferai toujours cela. Vous avez eu des enfants comme cela, vous ? Moi, je pense que ce n'est pas la réalité. Les enfants, et nous étions des enfants de colère, dit la Bible. Nous avons une tendance toujours à nous rebeller contre Dieu. Le code de la route, les autorités, les patrons, c'est dans notre nature humaine. C'est fou cela. Car la désobéissance, et c'est là vraiment un verset choc maintenant, car la désobéissance est aussi coupable que la divination et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie, les théraphimes. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Dieu a jugé Saül comme un châtiment exemplaire. On connaît ensuite la vie de Saül qui est une vraie catastrophe. Saül a laissé une porte entrouverte dans sa vie qui l'a poussé à désobéir à Dieu alors qu'il était dans une position avec un ordre très clair où il devait obéir. Et ce n'était qu'un apprentissage du début de la fonction de roi. Il aurait pu continuer par la suite à obéir ou peut-être il aurait désobéi. En tout cas, Dieu a dit « Arrêtez ». Sachez que je suis Dieu et Saül ne sera plus roi. Mais le verset qui est vraiment, les mots qui sont vraiment terribles pour nous, quelque part, mais c'est la vérité, car la désobéissance est aussi coupable que la divination. Autrement dit, lorsqu'on se détourne de Dieu, il peut y avoir dans le cœur un tel rejet de Dieu qu'on préfère les œuvres du diable. Qu'on préfère être lié au diable que d'être conduit par Dieu. Autrement dit, de retourner dans les pièges du malin au lieu de suivre Dieu. Et c'est le cas de Saül, bien sûr, c'est un cas de l'ancienne alliance. Mais si vous regardez un petit peu plus loin, non seulement il a perdu le fait d'être roi, mais au chapitre 16, au verset 14, il est écrit « L'Éternel, l'Esprit de l'Éternel se retira de Saül, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. » Le fait de la désobéissance a amené Dieu à un jugement, non seulement du rejet de la fonction comme roi, mais maintenant il y a un malaise terrible dans la vie de Saül. Peut-être que s'il y avait une clinique ou un CHU quelque part du temps d'Israël, on l'aurait amené là, voir un psychiatre, « Écoute, tu as vraiment un trouble là, tu as un mauvais esprit, c'est peut-être parce que tes ancêtres ou parce que tu as quelque chose qui vient, tu as peut-être très malheureux dans ton enfance là, qu'est-ce que tes parents t'ont maltraité, vous voyez tout ce que je veux dire là. » Des hérésies psychologiques, même s'il y a de vérité dans la psychologie, surtout quand on est psychologue ce matin. Mais l'idée, c'est que, je crois qu'elle est d'accord avec moi, c'est que la psychologie ne peut pas être un prétexte de cacher le péché. Amen ? Ouais, on est tous d'accord là-dessus. Et il y a une hérésie parfois, même dans les livres écrits par des chrétiens au nom de la psychologie chrétienne, où soi-disant on délivre le chrétien par toute espèce de séance, alors qu'il doit essentiellement se repentir de son péché. Nous avons tendance, frères bien-aimés et sœurs bien-aimées, à ne pas appeler péché dans nos vies. Je me réjouis des groupes de croissance, on en a parlé dans le conseil l'autre jour, de voir que ça sanctifie d'être redevable envers quelqu'un, de lire la Bible, ça sanctifie, et de dire à quelqu'un, oui, encore dans ma vie, il y a telle tendance, tel péché. Confessez donc vos péchés les uns et les autres, afin que vous soyez guéris. C'est merveilleux, tout ce que Dieu peut faire pour nous, tout ce qu'il a envie de faire pour nous. Mais si nous sommes humbles, et si nous nous humilions devant Dieu, Dieu va nous élever. Et c'est à quoi nous sommes appelés. Donc verset 14, le pauvre Saül tombe dans un trouble de l'esprit profond. Et au chapitre 28, verset 7, il tombe maintenant dans quelque chose d'encore plus grave. Il est écrit, chapitre 28, verset 7, « Et Saül dit à ses serviteurs, cherchez-moi une femme qui évoque les morts. » Où ? Qui évoque les morts ? Une femme qui évoque les morts, et j'irai la consulter. Ses serviteurs lui disent, voici, à Endor, il y a une femme qui évoque les morts. Est-ce que Saül ne savait pas, en Deutéronome 18, on le verra plus tard, qu'il est interdit d'invoquer les esprits, d'invoquer les morts ? Donc il va dans la détresse, parce qu'il est loin de Dieu, et que Dieu ne lui répond plus, ni par les songes, ni par l'Urim, ni par les prophètes, malgré le fait que Saül consulte l'Éternel, parce qu'il est rejeté. Alors, il va désespérément consulter une cartomancienne, ou je ne sais pas comment on peut dire, une magicienne. Mais vous savez, moi j'ai entendu déjà dire des chrétiens qui consultent l'horoscope parce qu'ils pensent trouver une certaine consolation ou avenir. Mais c'est consulter quelque part quelque chose qui ne vient pas de Dieu. C'est un péché qu'il faut rapidement abandonner pour ne pas en être lié. En fait, j'aimerais, suite au fait, l'idée ici, Saül a dit un grand « mais », n'est-ce pas, devant Dieu. Et il a laissé finalement sa nature et sa crainte peut-être, ou peu importe, la crainte du peuple. En tout cas, il n'a pas obéi à Dieu et à sa parole, qui pourtant était extrêmement claire. Dieu voulait l'utiliser pour un jugement sur Amalek à cause de tout ce qu'il avait fait contre Israël. Mais il a prétexté, voilà, on a des holocaustes, Seigneur, pour toi maintenant. C'est merveilleux, hein ? Elles sont gratuites. On a tous ces bons animaux là qu'on a repêchés là, et puis on va te les offrir. Et Dieu dit ceci, qui n'aime pas cela, parce que ce n'est pas ce qu'il a demandé. Il préfère l'obéissance au sacrifice. Et je pense à ce verset, Osée, je vous le lis si vous voulez bien, Osée chapitre 6 et verset 6, où il est écrit « Car j'aime la miséricorde et non les sacrifices et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. » Nous devons vraiment veiller, et je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais on est des fois actifs pour le Seigneur. Mais est-ce que tout ce que nous faisons est commandé par Dieu ? Est-ce que nous prenons le temps d'être dans le cœur de Dieu, dans la pensée de Dieu, dans la communion avec Dieu, les Écritures, et de croire à la miséricorde? Ce n'est pas tant ce que nous pouvons faire pour chercher à plaire à Dieu qui lui plaît, mais c'est plutôt le fait de croire en l'amour de Jésus, au pardon de nos péchés, à la miséricorde de Dieu. Il y a toujours un piège d'essayer de plaire encore à Dieu par nos efforts et nos œuvres. Alors que nous avons été rachetés par la grâce, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. C'est clair tout cela. Et pourtant, dans notre nature, on a quelque part envie encore de se justifier devant Dieu. Je ne sais pas si c'est l'âge, peut-être c'est l'âge, hein, mais on dirait qu'en vieillissant, on découvre vraiment qu'on ne peut rien faire avec, j'allais dire, sa vieille carcasse, excusez, mais son moi, ses efforts personnels. Paul disait, c'est quand je suis faible qu'alors je suis fort. C'est vraiment une dépendance avec Dieu. Je crois que Dieu cherche constamment à nous rendre dépendants de lui. Et combien de fois nous essayons encore par nous-mêmes, dans nos propres efforts ou propres volontés. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas exercer sa volonté, je ne dis pas cela, il y a le passif. Mais on doit avoir une volonté soumise à Dieu. Et combien c'est bon d'être soumise à Dieu. Combien il est agréable et bon d'être soumis à Dieu, en esprit et en vérité. Matthieu chapitre 9 verset 13, c'est Jésus qui a dit à des gens, n'est-ce pas, religieux, pharisiens, allez, apprenez ce qui signifie, je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice, car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Et si quelqu'un dit, moi je n'ai pas péché ou je n'ai pas de péché dans ma vie, la Bible dit, il est menteur. Donc je crois que c'est un appel à nous humilier. À nous humilier sincèrement sous la puissante main de Dieu afin d'être élevé au temps convenable et de croire plus à son amour, à son pardon et reconnaissant le vrai diagnostic de la parole dans nos vies. Voilà. Et la prescription, c'est de nous humilier, de nous laisser guérir par Jésus-Christ. Mais quand nous essayons de cacher nos vies, nos péchés, nos tendances, nos faiblesses, nous essayons encore par nous-mêmes, comme de gagner notre rachat, alors que Christ a tout payé. Et c'est la profondeur de son amour, de sa bonté, de sa miséricorde. Il est merveilleux d'être entièrement dans les mains de Dieu et de lui confesser toutes choses, car sans lui, nous ne pouvons rien faire. La Bible dit en Romains 16 aussi, « Ne savez-vous pas qu'en vous tenant, en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. » Et chapitre 15 et verset 18, il est écrit, « Car je n'oserais pas mentionner une chose si Christ ne l'avait pas fait par moi pour amener les païens à l'obéissance par la parole et par les actes. » Notre mesure d'obéissance à Dieu doit être liée non seulement à une soumission par rapport à la parole, mais dans les actes. Nous pourrions nous dire nous sommes soumis à Dieu, mais ne pas finalement agir en conséquence. Et un dernier passage que j'aimerais vous lire pour clôturer ce sujet de la désobéissance se trouve en Hébreux chapitre 4 et verset 11. Hébreux 4, verset 11. Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Le repos de Christ vient à nous lorsque nous lui obéissons. Reconnaissons que le plus grand problème que nous avons, c'est notre manque d'humilité et notre désobéissance. Et finalement, si on regarde au chapitre 5 et au verset... voilà, ce n'est pas le bon référence, excusez. C'est verset 8. Merci, bien-aimé. Bien qu'il soit fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes, il a été exaucé à cause de péché. Il a appris, à propos de Jésus-Christ, bien qu'il soit fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. C'est vrai que la désobéissance a entraîné toute l'humanité dans le péché, parce que le péché est entré par un seul homme. Donc il y a toujours des conséquences par rapport à la désobéissance. J'aimerais qu'on aille au second sujet, sous le thème des accès donnés au diable, après avoir regardé donc la désobéissance, au moins on va regarder deux points ce matin, le manque de maîtrise. J'aimerais que vous regardiez avec moi 1 Corinthiens, chapitre 7, verset 5. Vous savez, des fois on se dit, bon, mais est-ce que vraiment on va aborder le sujet de la sexualité dans l'Église? Ben là, on ne peut pas fuir. parce que lorsqu'on lit le passage ici, du manque de maîtrise, il s'agit ici de la sexualité. Dans 1 Corinthiens chapitre 7 et verset 5. Il est question ici, et je le précise de suite, le contexte, il est question des gens mariés. Il est question d'un homme et une femme qui sont mariés dans les liens du mariage. Alors il est écrit au verset 5, « Ne vous privez point l'un de l'autre. » Ici, c'est le domaine de la sexualité. « Si ce n'est d'un commun accord pour un temps afin de vaquer à la prière. » Donc, l'abstinence de la sexualité est ici volontaire pour la motivation qui est un temps mis à part pour la prière et dans la prière. Puis retournez ensemble, donc ayez à nouveau des relations sexuelles, de peur que Satan ne vous tente en raison de votre manque de maîtrise. L'idée ici, c'est que voilà, je m'engage à prier et puis peut-être je continue l'abstinence de la sexualité. Parmi les Corinthiens, vu qu'il y avait tellement de débauches, il y avait l'idée, mais la sexualité, finalement, le sexe, c'est sale. Donc, on n'a pas de sexualité, ça résout le problème. Et c'était une fausse façon de considérer la sexualité, qui est un don donné à Dieu, dans lequel on peut parfaitement se réjouir dans les liens du mariage. L'idée ici, c'est que oui, je fais abstinence des relations sexuelles parce que j'ai la motivation de prier. Mais si à un moment donné, voilà, la motivation de prier cesse, j'ai le droit de retrouver mon épouse ou épouse de retrouver son mari pour jouir de lui ou d'elle dans les relations sexuelles. Le danger ici, c'est que Paul dit, il y a un danger de manque de maîtrise, de ne pas faire en fait ce qu'on a décidé de faire parce que la tentation dans la sexualité devient plus forte. Dieu donne toute liberté dans le couple de jouer des relations sexuelles. Il n'y a pas de limitation. Mais l'idée ici, c'est que quelque part, ça donne un accès à la tentation. Et j'ai pris un petit dessin qui est donné d'ailleurs dans le sujet de la sexualité, dans les cours par femme qui sont très bien faits pour les adolescents. Quelque part, nous croyants, nous avons les yeux fixés sur le Seigneur. Amen. Mais on dirait toujours que Satan, vous voyez le petit schéma ici, essaie de nous tenir le polo. Si vous aimez regarder les matchs de foot et les matchs de rugby, oui, je vois quelques sourires quand même, mesdames, excusez-moi. Mais si vous regardez un match de rugby ou de foot, qu'est-ce qu'est la tricherie? Que le ralenti en vidéo montre très bien lorsqu'on regarde devant son écran, c'est qu'il lui a tenu le maillot. C'est interdit de retenir le maillot au foot. Imaginez, on fait tomber la surface de réparation, c'est un penalty, voilà. Mais il y a plein de tricheurs, plein de tricheurs. Et le diable, c'est un tricheur. Qu'est-ce qu'il veut? On a les yeux fixés sur le Seigneur, il essaie de tirer vers lui pour nous empêcher de garder les yeux fixés sur le Seigneur. Et dans le domaine de la sexualité, je pense que c'est un domaine très délicat. En Guyane, je le partagerai dimanche prochain, on m'a demandé de parler aux jeunes. Alors, on m'a demandé de parler aux jeunes, un petit peu les fréquentations, mais finalement, je suis tombé sur trois sujets, la tentation, la sexualité, les fréquentations. Et ça a été, semble-t-il, tout un choc, parce qu'il semble, enfin, je vous en parlerai dimanche prochain, venez dimanche prochain, c'était un vrai besoin. Mais la sexualité, c'est quelque chose qui est très délicat. Et la Bible dit, Paul dit ceci, « Pour ce qui concerne les choses au sujet desquelles vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme, toutefois, bon, il était plutôt pour le célibat, mais toutefois, pour éviter la débauche, relations sexuelles en dehors des liens du mariage, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. » Donc Paul est pour le mariage, c'est clair. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. C'est très clair cela. Dans les liens du mariage, les relations sexuelles sont tout à fait légitimes et normales et jouissantes. Ne vous privez point l'un de l'autre si ce n'est d'un commun accord pour un temps afin de vaquer à la prière, puis retournez ensemble de peur que Satan ne vous tente en raison de votre manque de maîtrise. Donc ici, c'est l'idée du manque de maîtrise dans le domaine de la sexualité qui donne une porte ouverte à Satan, qui peut nous faire tomber. Je dis cela pas condescendant, je n'en fais pas un autre. Je voudrais que tous les hommes soient comme moi. peut-être tout le monde n'est pas d'accord, mais que chacun tient de Dieu un don particulier l'un d'une manière ou d'une autre. À ceux qui ne sont pas mariés aux veuves, je dis qu'il leur est bon de rester comme moi. C'était des temps de persécution, ce n'était pas toujours évident de se marier. Maintenant, il y a les célibataires ici qui disent « Ah, Paul, quand même, tu y vas fort ». Mais s'il manque de maîtrise, ah ça c'est pour les célibataires, de même qu'ils se marient, car il vaut mieux se marier que de brûler. Le message est clair ici. Maintenant, le problème que nous avons dans notre société, c'est que bien souvent, les gens se marient assez tard. Or, le potentiel sexuel chez le garçon est le plus fort entre 18 et 20 ans. Donc, il faut savoir se garder, brûler patiemment, en attendant le jour où on trouve compagne. Mais c'est très dur. Billy Graham disait aujourd'hui, les héros de la foi, ce sont les jeunes qui se gardent purs avant le mariage. Autrement dit, qui se gardent vierges, hommes et femmes. Parce que de se garder vierge aujourd'hui, c'est à l'inverse et au contre-courant complètement de tout ce qui se fait dans le monde, et notamment dans les universités et même dans les écoles. Il y a des statistiques aujourd'hui qui montrent que des jeunes ont de plus en plus jeunes des relations sexuelles, avec toutes les conséquences que ça a, même les maladies transmises sexuellement. Enfin, je ne veux pas entrer en détail dans le sujet, mais l'idée ici que Satan peut tenter, et par manque de maîtrise, qui est vraiment capable de maîtriser toujours son corps, à moins de se réfugier en Dieu, alors il y a une tentation possible dans laquelle Satan peut jouer et entrer. Et on peut tomber esclave de la sexualité, sous différentes formes. Bon, ce n'est pas le sujet de ce matin. J'aimerais vous lire tout simplement deux passages qui sont tout simples, et on va terminer avec cela ce matin, plus une autre diapo. Genèse 39. On va lire, bon déjà vous l'avez peut-être pensé dans vos têtes, Genèse 39. Qu'est-ce qu'il faut faire face à la tentation sexuelle? Eh bien, on a un exemple ici d'un homme courageux, un homme de Dieu, un homme qui s'est gardé pour le Seigneur, par honneur de son maître, par honneur d'abord de son Dieu. C'est Genèse chapitre 9, versets 7 à 12. Un homme qui a été bien éprouvé dans sa vie, Joseph, vendu par ses frères, mis en prison, et puis ensuite libéré, acheté, et puis devenu le prince d'Égypte. Enfin, un des princes, dans le sens de, un des bras droits en tout cas de Pharaon, prince d'Égypte, c'est Moïse plutôt. Bon, ici, il est écrit, verset 7, Genèse 39, verset 7, « Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, couche avec moi. » D'habitude, on a plutôt tendance à croire que c'est l'inverse. Hein? Mais là, c'est vraiment une femme, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y avait dans sa tête, mais il semble que Joseph, c'était beau, peut-être, etc. Et peut-être son mari vieillissant, je ne sais pas, ce n'est pas écrit. Hein? Bon. « Couche avec moi !» Imaginez, une femme qui va à un homme, « Couche avec moi !» Oh là là. Mais aujourd'hui, je pense que ça existe aujourd'hui. Moi aussi. Il refusa. Ouf, merci Seigneur. Il dit à la femme de son maître, « Voici, mon maître ne prend avec moi connaissance de rien. Dans la maison, il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison et il ne m'a rien interdit, excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu ?» Qu'est-ce qui a sauvé Joseph? C'est que ses yeux étaient gardés et fixés sur Dieu et sur les conséquences de son péché. Quoi qu'il parlât tous les jours à Joseph, il refusa de coucher auprès d'elle, d'être avec elle. Amen. Un jour qu'il était entré dans la maison pour faire son ouvrage et qu'il n'y avait là aucun des gens de la maison, elle le saisit par son vêtement. Elle en voulait, hein? En disant, couche avec moi. Il lui laissa ses vêtements dans la main et il s'enfuit au dehors. Et on sait après qu'il va aller en prison. Et on sait que Dieu est souverain et que c'est la façon avec laquelle Dieu va le libérer, donner les songes, interpréter les songes des vaches maigres et des vaches pas folles, des vaches grasses. Et puis finalement, les temps de disette et les temps de récolte d'abondance qui suivit par des temps de disette. Mais quelque part, Joseph est resté intègre. Moi, je me demande si ce n'est pas le diable au travers de cette femme qui inspirait cette couche avec moi. En tout cas, si ça vous arrive, fuyez, hein. Le plus vite possible. Tant pis le jugement qui est peut-être sur vous, peu importe ce que Joseph a pu vivre. Puis Joseph a été intègre, il a été ensuite traité injustement. C'est exactement ce que le diable veut faire dans nos vies, nous traiter injustement. La sexualité est un don qui est donné par Dieu extraordinaire, mais que malheureusement, malheureusement, la société d'aujourd'hui a complètement perverti, dévié. Vous êtes devant la télévision. Allez, j'y reviens. Vous regardez un match de rugby et vous avez une publicité tout d'un coup qui vient, qui n'a rien à faire avec ce que vous avez envie de regarder, du rugby ou autre chose. Bon, la télé, c'est un piège aussi, très dangereux parfois. Mais c'est incroyable comment les suggestions de l'ennemi sont permanentes pour solliciter la convoitise des yeux et de la chair chez l'homme et chez la femme même, pour susciter une tentation, comme si on allait acheter plus de parfums, acheter plus de voitures, acheter plus de gadgets. Mais tout ça, c'est complètement une déviation, une tromperie de l'adversaire. Ne vous laissez pas tromper par l'adversaire. Alors, j'ai hésité à donner cette diapo, mais bon, j'y vais. En plus, elle vient de parfum. Alors, encore un Corinthiens 7,9, j'ai oublié le verset. Il vaut mieux se marier que de brûler. Alors, si c'est votre cas, mais priez que Dieu vous donne un conjoint et que Dieu vous donne la maîtrise en attendant. Parce que quelque part, je vais dire cela, ce n'est pas que dans le domaine sexuel, mais l'avant-mariage est souvent le reflet de la qualité du mariage par la suite. Le jour du mariage, c'est un jour, c'est facile, ça, organiser. Mais préparer des gens à vivre selon Dieu toute leur vie, ça, c'est la volonté de Dieu. Comment est-ce que je veux dire? Alors, juste une petite exhortation maintenant. J'ai trouvé ça encore chez Parfum. Imaginez, c'est pour des enfants, des jeunes de 12 à 15 ans. Quand nous avons quitté, ma femme et moi, Québec, la polyvalente à côté de nous, qui était un lycée, donc entre 15 et 17 ans, parce que ça se termine à 17 ans, 30 à 40% des jeunes avaient des relations sexuelles. Et 15% d'entre eux qui avaient des relations sexuelles étaient atteints par des maladies transmises sexuellement. Comment ça se passe, la tentation dans le domaine sexuel? La sexualité, c'est un potentiel, un moteur énorme. Moi, je n'ai jamais conduit une Ferrari. J'ai conduit, par contre, une voiture très, très rapide une fois, et j'étais surpris juste au bruit, là, à peine d'accélérer, à peine comment ça démarrait si vite. C'était un moteur très puissant. La sexualité, c'est la même chose. Il faut faire attention, ne pas trop appuyer rapidement sur l'accélérateur ou de passer la visite parce que vous allez peut-être démarrer trop rapidement et peut-être même vous envoler. Alors, je dis ça avec beaucoup de compassion parce que quelque part, je pense que c'est un des sujets les plus difficiles dans la vie du célibataire ou du jeune en général, surtout dans notre société où il y a énormément de sollicitations. Mais par femme, parole pour toute la famille. Avertissement pour les adolescents, c'est bien de prévenir avant de guérir. Mais c'est vrai pour tous. Ici, l'auteur, j'ai découpé un petit peu, il y avait des commentaires, mais j'ai voulu garder ici l'idée du processus de la tentation qui peut amener à des regrets profonds. Alors, se tenir la main, ça peut paraître tout à fait normal et légitime, mais quand ça commence à brûler, on va dire, que le moteur commence à chauffer, et puis qu'on est prêt à passer la vitesse, à aller plus loin et encore plus loin, alors se tenir la main, les petits baisers, les baisers prolongés, je lis, hein, les caresses poussées, ainsi de suite, avec plus d'intensité, et puis l'acte sexuel. Mais j'aimerais dire que Dieu est miséricordieux si quelqu'un était tombé comme cela, avant le mariage, en dehors des liens du mariage, Dieu pardonne cela. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut continuer. Puis ça ne veut pas dire non plus, pour ceux qui sont gardés, d'avoir honte, mais au contraire, de se garder et de garder la maîtrise, ne pas donner accès à Satan. Ça veut dire que dans la sexualité, pour ne pas donner accès à Satan, il y a des films qu'on ne peut pas regarder, il y a des images qu'on ne peut pas regarder. La pornographie sur Internet, c'est du péché. Il y a des domaines où on ne peut pas, où des promiscuités d'intimité, garçon-fille, homme ou femme. Il y a des limites en toute chose. Et ces limites sont données par Dieu. Et lorsque, sur mon tableau de bord, en voiture, j'ai des voyants qui s'allument, je peux dire, oh, le voyant est en panne. Je n'ai pas de problème de moteur. Ça clignote, c'est rouge, même peut-être ça va faire du bruit. Je dis non, mais vraiment, mon voyant est mal en point en ce moment. Ou alors je peux dire, ouh, mon voyant est une alarme qui m'avertit que j'ai vraiment un problème. Donc quand les alarmes s'allument, on peut ou les mettre de côté et faire semblant que ça ne clignote pas, ou alors dire, pour garder une bonne conscience, merci Seigneur, tu m'avertis, là il y a danger. Prions s'il vous plaît. Notre Dieu, notre Père céleste, merci de nous aider à combattre le bon combat de la foi. Même si c'est présenté avec un certain humour, Seigneur, tu sais qu'on est tous dans un même combat de chair, de désobéissance, de tentation. Seigneur Jésus, nous nous humilions en tant que croyants devant toi ce matin, tous et chacun, pour te demander grâce et miséricorde, parce que tu prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice. Tout ce qu'on pourrait faire pour essayer encore de plaire, de te gagner, on sait qu'on est des pécheurs et qu'on ne peut pas te plaire par nous-mêmes. Mais merci Jésus de ce que tu as fait de notre corps le temple du Saint-Esprit. Merci Jésus de ce que tu nous donnes la victoire pour t'aimer suffisamment pour apprendre à ne pas faire du mal, à obéir aux Écritures, et notamment dans le domaine de la sexualité, à nous garder, à nous préserver par la puissance du Saint-Esprit. Seigneur, le Saint-Esprit qui habite en moi, mon corps qui devient le temple du Saint-Esprit, t'appartient, Seigneur Jésus. Pendant que nos têtes sont fermées, nos yeux sont baissés, je vous invite à prier dans votre cœur, sans le signaler particulièrement, mais je vous invite dans votre cœur à prier, « Seigneur, je te donne ma vie. Elle est à toi. Je m'engage à t'obéir. Je veux t'obéir. Connais ta parole et t'obéir. La mettre en pratique. Et par ta grâce, je désire me garder pur. Je désire que tu m'aides à maîtriser mon corps, à me maîtriser dans mes pensées, à ne pas tomber dans la tentation et dans le péché. Merci Seigneur de ce que tu es un recours lors de la tentation, un secours. À toi la gloire au siècle des siècles. Et encore une fois, Seigneur, nous nous humilions et pitié de nous. Fortifie-nous que nous prenions courage pour être prêts à combattre le bon combat de la foi. Amen.